RMC jusqu'à 14h. Motors, Patrick Rivet.
Et oui, on est bien dans Motors. Effectivement, à une semaine du retour du championnat du monde de Formule 1. La Formule 1, on en parlera. Ça sera en fin d'émission. Mais tout de suite, bien sûr, le direct et puis l'actu. L'actu, elle est avec Éric Briquet. En Allemagne, pour la fin, il reste à peu près quoi? Deux pilotes à passer dans la Power Stage. Eric, avant la fin donc de ce rallye d'Allemagne.
Salut Patrick, bonjour à tous. Et oui, effectivement, on est en train d'en terminer tout doucement parce que ça va quand même très vite en Allemagne. Mais on vient de voir Sébastien Ogier franchir la ligne d'arrivée de la dernière épreuve chronométrée, la fameuse Power Stage, dont le principal intérêt pour les pilotes est d'aller chercher des points de bonus sur ce rallye d'Allemagne. Et Sébastien Ogier, pour l'instant, n'est crédité que du quatrième temps de cette épreuve chronométrée. C'est un petit peu décevant, on espérait un peu mieux pour lui. Il est devancé notamment par le Finlandais Latvala dès un dixième de seconde, donc ça peut faire cher le point quand on perd un point pour un dixième de seconde. Donc pour l'instant, Ogier marquerait deux points, mais il reste derrière lui Mikkelsen sur la Citroën et Ott Tanak, le leader du rallye, qui peuvent donc passer devant, et ce qui fait que Ogier ne marquerait pas de points supplémentaires sur cette Power Stage, qui a déjà été le cas pour Thierry Neuville, puisque pour l'instant Thierry Neuville est seulement sixième. Donc à suivre dans les minutes qui viennent. On s'approche du premier succès sur l'asphalte du pilote estonien, l'équipier de Sébastien Ogier chez M-Sport, l'équipe anglaise. Il reste encore 4 minutes environ, 5 minutes à patienter, puisque là en ce moment c'est Andreas Mikkelsen qui est en action, le Norvégien pigiste de luxe de l'équipe Citroën. On l'a vu arriver en cours de saison, venir renforcer l'équipe française qui était un petit peu en difficulté. Et voilà donc Mikkelsen qui est en train d'offrir un très joli podium pour cette équipe qui a très très longtemps dominé le rallye d'Allemagne à l'époque de Sébastien Loeb, qui était un peu dans son jardin. Et là, c'est vrai que par rapport à Chris Meek, qui malheureusement a encore connu beaucoup de difficultés, et puis Craig Breen un petit peu plus en retrait, celui qui sauve l'honneur pour l'instant, c'est le Norvégien Andreas Mikkelsen, transfuge de l'équipe Volkswagen. Il s'est retrouvé sans volant cette année lorsque Volkswagen a décidé d'arrêter le WRC fin 2016. Et il était libre et Citroën a eu raison de le prendre pour faire des essais et puis quelques courses. Et il ne devait pas participer vraiment au départ à ce rallye d'Allemagne. Et c'est Al-Qassimi, le pilote également partenaire, qui a décidé de lui confier sa voiture aussi en Allemagne. Et c'est la bonne décision pour l'instant, puisqu'on s'approche d'une deuxième place de Mikkelsen.
Alors, justement, on va rester avec toi, puisque le dénouement, on va le vivre complètement direct. Tu disais tout à l'heure que Citroën a été dans son jardin. Mais franchement, Sébastien Ogier a failli transformer également l'Allemagne en son jardin. Mais on s'aperçoit que cette année, plus personne n'a véritablement de jardin. Tout est ouvert tout le temps.
Effectivement, c'est le cas depuis le début de ce championnat 2017 avec une nouvelle voiture beaucoup plus puissante. J'ai l'impression que les forces se sont resserrées avec le départ de Volkswagen. Et bien derrière, on peut pas dire qu'il y a vraiment une équipe qui domine le lot, une voiture. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que les performances, les victoires en tout cas sont bien partagées, puisque chaque équipe a réussi à gagner au moins une victoire. Il y a eu une victoire pour Citroën avec Chris Meek, il y en a eu 4 pour l'instant avec Ford si Tanak s'impose bien entendu. Hyundai aussi a 3 victoires à son compteur, Toyota en a 2. Donc voilà, c'est un championnat extrêmement disputé. La preuve, c'est que en championnat pilote, on avait 2 pilotes ex aequo avant le départ de cette 10e manche sur les 13 que compte le calendrier. Il y avait Thierry Neuville, le Belge de chez Hyundai, égalité avec Sébastien Ogier à 160 points. Là, maintenant, on pense que Sébastien Ogier est en train d'effectuer une très belle opération, parce que il est certain d'assurer 15 points au minimum, peut-être un 16e avec cette Power Stage. On attend encore.
Ouais, alors Eric, je te donne un résultat là, parce que voilà, on suit tout ça en même temps. Mikkelsen n'a pris aucun risque, voire il a peut-être pris un petit peu au début et il a préféré calmer le jeu. Il termine à la 8e place de cette Power Stage. Donc il y a toujours peut-être la possibilité de prendre un petit point pour Sébastien Ogier. Reste Ott Tanak donc à passer dans cette Power Stage. Alors, avant d'aborder les vainqueurs et de faire le bilan au terme de ce rallye d'Allemagne et voir un petit peu les perspectives que cela nous offre pour les 3 derniers rallyes de la saison, moi je te propose déjà d'évoquer peut-être celui qui est entre guillemets le grand perdant de ce rallye. Il se nomme tout simplement Thierry Neuville.
Et oui, c'est vrai que juste après l'épreuve précédente qui s'est déroulée fin juillet en Finlande, eh bien, il avait réussi à, c'était lui qui avait profité des ennuis de Sébastien Ogier puisqu'il avait abandonné suite à une sortie de route et un gros choc contre un arbre qui avait envoyé un petit peu Julien Grassi, son copilote, KO pour les heures suivantes. Donc, il n'avait pas réussi à repartir. Donc, 0 point en Finlande pour le Français quadruple champion du monde. Neuville en profite. Il revient, même s'il ne fait pas une grande performance, il revient à la hauteur du Français. 160 points chacun. Donc là, on se dit, est-ce que c'est le tournant du championnat puisque Neuville revient à la hauteur d'Ogier, est-ce qu'il va continuer sa course en avant? Eh bien non, dès le rallye suivant, ici, ce week-end en Allemagne, c'est lui qui commet une erreur, parce que on peut pas parler d'erreur, mais qui coupe un petit peu trop dans un virage. Il heurte le rebord de la route qui était en béton à cet endroit-là, et il casse une suspension, du moins une suspension se casse sur sa voiture. On sait pas si c'est une part de malchance, de non réussite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la course du Belge s'est retrouvée ruinée dès samedi matin. Il avait encore l'espoir en revenant ce matin pour disputer la dernière étape. Il espérait marquer quelques points, donc comme on dit, sauver les meubles sur cette power stage. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc il va repartir d'Allemagne avec 0 point. Son rival direct pour le titre va en marquer entre 16 et 17. À 3 manches de la fin du championnat, 16 ou 17 points, ça commence à faire pas mal. On peut commencer à pas dire respirer ni gérer, mais il vaut mieux avoir cette avance à ce stade du championnat.
C'est clair. Alors, une info, Ottanak, possible vainqueur de ce rallye, est depuis désormais 4 minutes dans la Power Stage. La Power Stage qui se court en 6 minutes, hein, en gros. Autrement dit, dans les 2 minutes qui suivent, on va pouvoir vous donner en direct dans Motors le nom du vainqueur du rallye d'Allemagne. Alors, tu parlais de malchance. Alors, ou pas? On peut voir déjà une chose, Eric. Rappelle-toi que la veille, déjà, il y a une petite alerte avec ce côté gauche de la voiture qui est allée dans les vignes. Est-ce que ça n'a pas fragilisé éventuellement une pièce mécanique sur la voiture de Thierry? Et puis, rappelle-toi aussi ce que nous racontait Sébastien Ogier au soir de cette étape du samedi, en disant que lui, dès les reconnaissances, il l'avait vu, hein, cet endroit où la terre avait été creusée par rapport à la route, et que déjà, il avait noté que surtout il ne fallait pas passer dans la corde. Ça peut faire aussi une différence, ce genre de choses.
C'est ce qu'il faisait autrefois. Il connaissait bien ce virage. C'est une épreuve chronométrée qui est très connue de tous les pilotes. Autrefois, il passait dans la corde, mais là, il a jugé que c'était quand même un petit peu haut, la petite marche entre le bas-côté, parce qu'il faut pas, il faut comprendre qu'en fait, les pilotes n'hésitent pas à mettre des roues dans la terre ou dans l'herbe pour essayer de passer encore plus vite, hein. C'est ce qu'on appelle les coupes dans les virages. Alors, des fois, c'est 20 cm à l'extérieur du goudron, des fois, c'est plus. Mais là, Ogier a estimé que c'était peut-être un peu risqué d'aller mettre des roues dans la terre, et il a préféré, lui, passer vraiment sur la partie bitume béton de cette épreuve chronométrée. Et voilà, donc en fait, c'est bien ce qui résume la différence entre un champion qui a de l'expérience et puis un pilote qui cherche à devenir champion. C'est que pour avoir un titre, il faut, j'allais dire, avoir tous les éléments pour soi, et des fois il faut faire des bons choix. Et là, peut-être que c'est effectivement Ogier qui a eu la bonne stratégie, la bonne tactique. Et Tanak est en train d'en terminer, malheureusement. Oui, il risque d'être loin, puisque son temps intermédiaire était à plus de 3 secondes au temps intermédiaire d'Ogier, donc ça. Il ne devrait pas rentrer dans les 5, ce qui fait que, on va le savoir dans quelques secondes déjà, on va avoir la confirmation de la victoire de l'Estonien, la deuxième cette année.
Et puis celle-là, on va en reparler, Eric, parce qu'elle a été tout aussi impressionnante que la première. On va lui laisser, bien sûr, le temps de terminer. Aucun risque pris par Tanak.
Voilà, c'est fait. Haute Tanak, on peut le dire, vient de remporter ce rallye d'Allemagne.
C'est super. C'est super ce qu'il nous a fait là, Ottanak.
Voilà, ouais. Exactement. Il a été énorme, le jeune Estonien. Il a réalisé une course parfaite sur l'asphalte. On l'attendait pas sur cette surface, puisqu'à la base, lui, son pays, l'Estonie, eh bien, on roule essentiellement sur des routes sur terre. Il a pris le rallye sur la terre. C'est sa surface naturelle. On pensait pas qu'il serait aussi rapide, en tout cas aussi performant et constant sur l'asphalte, eh bien, il vient de prouver finalement qu'il peut gagner sur toutes les surfaces du championnat. Ouais. Il peut gagner en Suède sur la neige, il gagne sur la terre, ça s'est déjà fait. Maintenant, il gagne sur l'asphalte, donc ça veut dire que à l'avenir, ce jeune Estonien, eh bien, va être un candidat au titre mondial. D'ailleurs, il est troisième du championnat.
Il remonte très fort
sur Tchernobyl. Il est toujours dans la course au titre.
C'est exactement ce que je voulais te dire, Eric. C'est que depuis deux rallyes, et surtout depuis le début de ce rallye d'Allemagne, avec les Thierry Neuville et Sébastien Ogier à égalité avec 160 points chacun, ça y est, tout le monde disait, on s'est plus ou moins mis à parler d'un duel. Mais franchement, quand on voit ce que vient faire Odtanak, attention à cet estonien, si je puis dire. Parce
c'est
que,
le troisième larron, effectivement, il peut profiter du moindre faux pas des deux qui sont devant lui. En tout cas, pour l'équipe de Malcolm Wilson, qui est la seule équipe, j'allais dire, privée du championnat, puisque quand on dit privée, ça veut dire qu'il n'y a pas le soutien direct d'un gros constructeur, comme ça peut être le cas pour les autres teams avec Hyundai, avec Toyota ou avec Citroën. Donc, M-Sport, c'est une écurie qui est basée dans le nord de l'Angleterre, managée par un ancien pilote, Malcolm Wilson. Et cette équipe, eh bien, se retrouve largement en tête du championnat du monde des constructeurs,
c'est quasi carton plein. Un pilote premier, un pilote troisième, alors que le premier pilote Hyundai, c'est Don Paddon qui termine à la huitième place. Donc c'est coup dur pour cette équipe qui jouait. On rappelle aussi que Alzeno, c'est en Allemagne, c'est là où se situe Hyundai. Et bah Hyundai à domicile, un petit peu comme Volkswagen à une époque, n'a pas su réussir et marquer de gros points sur ce rallye dans sa course au titre constructeur, qui pour Hyundai est presque aussi important, sinon plus, que le titre pilote.
C'est vrai, si tu veux, Patrick, on va donner le classement complet des premiers de ce rallye d'Allemagne. Donc, victoire de Odtanak, deuxième place pour le Norvégien Andreas Mikkelsen sur la Citroën à 16 secondes et 4 dixièmes. Troisième, c'est Sébastien Ogier, le quadruple champion du monde, à 30 secondes et 4 dixièmes. Excellente opération pour le Français dans sa course au titre face à Thierry Neuville. Quatrième place, c'est le Finlandais Jo Anninen, premier des Toyota, à 1 minute 49 et 2 secondes. Cinquième, l'autre Citroën, celle de l'Irlandais Craig Breen, à 2 minutes 01 et 5 secondes. Voilà donc le top 5 de ce rallye d'Allemagne. Et au niveau du championnat, on l'a dit, c'est donc bien Sébastien Ogier qui reprend la tête. Ça, c'est l'info principale de cette dixième manche de l'édition 2017 du WRC. Donc, 16 points d'avance pour Sébastien Ogier sur Thierry Neuville.
Alors, effectivement, une info, c'est Dany Sordo.
17 points,
absolument, parce qu'il marque 2 points.
Sébastien Ogier marque 2, 15 points, la troisième place, plus 2 points, la bonus. Donc, 17 points d'avance, alors qu'il reste 3 épreuves à disputer. La prochaine, c'est en Catalogne, c'est début octobre. Ensuite, quelques semaines plus tard, on va en Grande-Bretagne et le championnat se termine en Australie au mois de novembre.
On va quand même revenir sur rapidement, Eric, justement sur tout ça. Sébastien Ogier, sur ce rallye, il a quelque part, il termine troisième. Une des raisons essentielles, c'est que il est parti à la faute avec des pneus qui s'étaient plutôt faits pour la route sèche qu'il avait pris vendredi en fin d'après-midi, contrairement justement à Odtanak. Odtanak, lui, c'est un zéro faute absolu, alors que Seb, il en a fait un petit peu. Donc ça, franchement, en arrivant ici, il pensait peut-être rester maître ici en Allemagne, comme il avait remporté la saison précédente. Ça n'a pas été le cas. Et en plus, c'est son propre équipier qui le bat. Comment tu le ressens, tout ça?
Eh bien, si on regarde l'écart final de 30 secondes entre les deux pilotes du Team M-Sport, on se souvient que le premier jour, Sébastien Ogier en a perdu 25, 5 secondes d'abord sur une première heure et ensuite une vingtaine sur sa deuxième erreur. Donc, 25.
Il était à 30,6 ce soir du vendredi.
Ouais. Exactement. Et depuis, l'écart n'a pas évolué. Ça veut dire que Ogier et Tanak ont quasiment fait jeu égal au niveau des performances. Sauf que, la différence s'est jouée sur ces deux erreurs. Des erreurs pas minimes, mais c'est vrai que deux fois Sébastien Ogier s'est fait piéger à la réaccélération en sortie d'épingle sur un terrain très gras, très glissant. Et voilà, donc pour gagner un rallye, il faut réussir à passer partout sans faire d'erreur. C'est ce que a réussi Odtanak, l'Estonien. Mention bien aussi pour Andreas Mikkelsen avec la Citroën C3. Donc voilà, le podium, il est finalement très logique, puisque absolument. Les autres ont fait des erreurs, ont connu des ennuis, mais en tout cas, voilà, on a un podium absolument logique et une bonne opération pour Sébastien Ogier qui,
absolument aussi.
Quand il a vu Thierry Neuville, à partir de ce moment-là, il n'a plus voulu prendre des risques pour
même
finir deuxième.
Pour aller chercher la deuxième place, ouais,
voilà,
c'est ça.
Ouais, exactement. Ouais, ouais.
Eric, ce que je te propose, eh bien maintenant on a vécu ça en direct en ta compagnie, c'était super. Ben ce que je te propose, c'est d'être fidèle à ta réputation, à savoir de temps en temps de savoir nous trouver des belles petites interviews sur le WRC. Eh ben voilà, si tu as des invités toi-même, si tu arrives à voir du monde, que ce soit Sébastien Ogier ou Thierry Neuville ou pourquoi pas des gens de chez Citroën, eh bien n'hésite pas à nous rappeler et bien sûr on te retrouvera à ce moment-là avec grand plaisir à l'antenne. Merci en tout cas pour nous avoir offert cette arrivée en direct du Rallye d'Allemagne.
RMC jusqu'à 14h. Motors. Patrick Rivet.
Motors effectivement qui continue. Allez, je vous redonne si vous n'étiez pas avec nous, ce qui n'est pas bien, le résultat du Rallye d'Allemagne, les trois premiers, donc Ottanak devant Andreas Mikkelsen sur sa Citroën, et puis à la troisième place Sébastien Ogier qui conforte avec 17 points son avance au championnat du monde des rallyes. Il reprend la tête à Thierry Neuville. En attendant de savoir si à la fin de la saison Sébastien Ogier sera un quintuple champion du monde, nous on va retrouver un sextuple champion du monde. Il se nomme Thomas Scharrer. Il est pour la sixième fois sacré champion du monde de Supermoto. Le Supermoto, il va nous expliquer tout cela, Thomas. Bonjour Thomas.
Salut à tous.
Merci de nous rejoindre sur l'antenne d'RMC dans Motors. Voilà, on est voilà. Moi, j'aime bien m'entourer de multiples champions du monde. La semaine dernière, j'avais Sébastien Ogier ici au téléphone. Et ben cette fois-ci, j'ai Thomas Scharrer. Moi, j'avais envie Thomas de faire découvrir d'abord ton nom à nos auditeurs, et puis ce sport peut-être un petit peu méconnu qui est le supermoto. Nous en France, on a connu ça il y a très longtemps. Pour les anciens comme moi, ça s'appelait le supermotard. Depuis, c'est devenu supermoto. Et ben voilà, j'avais envie de faire découvrir tout ça. Explique-nous déjà un petit peu ta discipline et comment tu en es arrivé à faire ce type de compétition, Thomas.
Ben en fait le supermoto c'est un mélange entre le motocross et la vitesse à la base, et on a une partie bitume et une partie terre, donc c'est la particularité de cette discipline, et c'est ça qui est difficile parce que il faut rouler aussi bien dans la terre que sur le bitume, et voilà, quand on arrive dans la partie terre avec des pneus slick, ça glisse, c'est compliqué, et on ramène souvent pas mal de terre et de poussière sur le bitume, et voilà, après ça glisse, voilà, c'est spectaculaire et ça crée des belles courses, ouais.
Comment tu as découvert justement cette discipline? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline qui est le supermoto, et quelles qualités faut-il avoir pour être champion du monde, tout simplement?
Ben moi j'ai découvert ça quand j'étais jeune. Après c'était une discipline à la mode dans les années fin 90-2000. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être assez complet. Il faut être aussi fort en motocross qu'en vitesse, on va dire. Et voilà. Après, ça, l'entraînement touche à tout. On peut pas s'arrêter à faire que du supermotard, sinon on va pêcher dans une partie du circuit. Donc après, c'est ça qui est toute la complexité de la discipline. Et faut être complet. Et voilà, faut aussi bien se être à autre point sur du bitume avec une moto assez particulière comme dans la terre avec des pneus slick, quoi. C'est ça qui est difficile et là où on peut faire beaucoup de différence.
Alors justement, l'entraînement, c'est quoi? C'est parce que pour également pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément bien ce sport, je leur conseille quand même d'aller regarder des vidéos, parce que vous arrivez en glisse des deux roues dans les virages, les freinages se font toujours plus ou moins avec du contre-braquage. Que faut-il faire à l'entraînement pour conserver cette expérience, savoir où en est le fil du rasoir?
Ben, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de roulage. Moi, j'essaye d'être toujours sur la moto, que ce soit du cross, du supermoto, de la vitesse ou même parfois du trial. Tout est bon à prendre. Il faut essayer de prendre un maximum de sensations de toutes les disciplines, parce que c'est une discipline assez complète, et au final tout nous apporte, Et après, ben, c'est beaucoup de roulage qui nous fait qu'on garde un bon feeling. Et après, on peut le voir, c'est une discipline qui plaît parce qu'il y a beaucoup de pilotes de MotoGP qui en font pour s'entraîner. Et notamment Zarco, Marquez, tout ça. Et
voilà, effectivement. Que, voilà, effectivement. C'est vrai
ça
que les Américains, à une époque, en Grand Prix moto et en MotoGP par la suite, ils faisaient beaucoup de speedway, de dirt track, histoire justement d'apprendre la glisse. Aujourd'hui, les certains pilotes, effectivement, MotoGP, ça donne aussi à l'exercice qui est le tien pour essayer également pour s'entraîner. Je rappelle que tu as 29 ans, que tu as débuté à l'âge de 16 ans sur ce type de moto et que tu es arrivé dans au summum de la discipline qui est le S1. Il y a un S1, un S2. Alors après il y a des S3 et des S4. On va peut-être pas rentrer dans le détail. À l'âge de 19 ans, depuis 2007, premier titre en 2010. Il sera suivi par des nouveaux titres de champion du monde 2012, 2014, 2015, 2016. Et puis voilà, le dernier en date, hein, c'est cette année, c'est 2017. Bravo, en tout cas, pour ce résultat absolument magnifique. Ce championnat du monde de cette année, un mélange de S2 et de S1, ce qui se jouait sur trois meetings, c'est forcément interdit de se rater dans la moindre des courses.
Ouais, cette année c'était particulier. L'organisateur a décidé de changer un peu la formule. On a coupé le championnat en deux. On fait une partie championnat d'Europe et une partie championnat du monde. Donc du coup, le championnat du monde était très très court. Donc on n'avait pas droit à l'erreur. Bon, moi ça s'est super bien passé. J'étais présent à chaque manche, chaque course. Donc voilà, j'ai gagné pas mal de courses et au final, ben voilà, ça paye encore une fois. Et voilà, je suis très fier d'accrocher un sixième titre mondial.
Alors, les adversaires principaux cette année, ça a été les pilotes allemands. Des pilotes allemands que tu devrais, et que tu vas retrouver à l'occasion du Super Moto des Nations. Parce que c'était intéressant aussi d'évoquer cela, parce que on parlait de tes titres de champion du monde. En toute logique, eh ben, tu es le meneur, le capitaine, si je puis dire, de l'équipe de France qui va disputer le Super Moto des Nations avec la FFM, bien sûr, derrière vous, avec Sébastien Bonal, votre entraîneur. Et puis, vous remettez votre titre en jeu. Parce que je rappelle aussi que, franchement, la France, dans ce sport dont tu parlais très à la mode dans les années 90, on pourrait presque dire que la France est une des terres d'origine du supermoto. 16 titres déjà pour la France dans cette discipline, toutes catégories confondues. Bah, tu vas retrouver les Allemands, peut-être vos plus durs adversaires à l'occasion de ce supermoto qui se déroule sur le circuit Carole. C'est en région parisienne, RMC d'ailleurs partenaire, les 23 et 24 septembre.
Ouais, ça va être compliqué. Il y aura les Allemands qui seront très forts, mais après il y aura aussi les Italiens, les Tchèques qui étaient présents l'année dernière. Bon, nous, après, on va bien bosser. Je pense qu'on va essayer de tout donner comme chaque année. D'autant plus que ça sera en France chez nous. Donc, ça nous tient à cœur de réussir. Et déjà, en Espagne l'année dernière, c'était super bien passé. Il y avait beaucoup de Français qui avaient fait le déplacement. D'entendre le public nous encourager, ça, c'est une force encore qui nous nous motive encore plus. Et c'est vrai que, voilà, si... Là, ça va être en France, ça va être particulier. Je pense que ça va être une belle fête et on va essayer de régaler le public, ouais.
Alors, je rappelle que tu es donc... il y a trois pilotes dans chacune des catégories, S1 et S2. Tu seras donc, toi, associé à Sylvain Bidard et à Laurent Fatt. Et puis, dans la catégorie S2, l'équipe de France sera représentée par Nicolas Cousin, Florian Catrice et Aymeric Buneau, des pilotes que tu connais bien également, puisque je parlais avec toi du championnat du monde. Mais on rappelle également que tu disputes aussi le championnat de France. Tu n'arrêtes jamais, quoi.
Ouais, j'ai créé mon team l'année dernière pour pouvoir revenir faire le championnat de France. Et ouais, c'est on se connaît tous, on se croise régulièrement, donc tous les week-ends sur les compétitions. Et puis là, on va faire un stage normalement tous ensemble pour préparer le Super Moto des Nations. Donc ça va être, on va croiser les infos. Ça va, c'est un peu particulier parce que le Super Moto là-bas, c'est quand même un sport. Personnel, on va dire, c'est individuel et là il faut travailler en équipe, donc c'est pas facile et c'est bien que la FFM mette en place des stages comme ça où on peut s'entraider et croiser un peu des infos et bosser en équipe, quoi. C'est particulier, donc c'est vrai que c'est intéressant et on en a besoin parce qu'au final, on travaille souvent dans notre coin, même si on s'entend tous très bien. C'est quand même, voilà, on est tous concurrents, donc là, de s'entraider, c'est ça fait bizarre, mais c'est super important pour gagner des nations, quoi.
Eh bien, écoute, c'est sur ces belles paroles que l'on va te remercier d'être venu avec nous. Je rappelle Thomas Charrère, 6 fois champion du monde de Supermoto. Et je rappelle les dates. Donc, sur le circuit Carole du Supermoto des Nations, les 23 et 24 septembre prochains. Merci Thomas.
Merci à vous. À bientôt. Salut.
Et puis franchement, on va rester au niveau des champions du monde parce qu'on accueille désormais un champion du monde d'endurance. Il se nomme Romain Dumas et ça nous fait vraiment très plaisir de le retrouver. Romain qui, hier, roulait en Allemagne dans un championnat de GT VLN. Bonjour Romain.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci de nous retrouver, fidèle également de cette émission Motors. Romain, ben déjà une première question toute simple. Comment s'est passée ta course hier en Allemagne?
Écoutez, plutôt bien, puisqu'on l'a remporté, donc
ben voilà.
On gagne, ça venait toujours voilà. Content.
Ouais,
une course de 6 heures sur le célèbre tracé du Nordschleife, c'est-à-dire la grande boucle du Nürburgring. Il y avait 150 concurrents au départ. Bon, réellement, dans la catégorie GT3, il y en avait une dizaine qui pouvaient l'emporter. Donc, on a une belle course, bien sûr, avec la pluie habituelle du Nürburgring. Donc pas mal de rebondissements, mais une course intéressante en tout cas.
On rappelle que tu es pilote Porsche, Romain, que tu roulais donc sur une Porsche sur cette course. Avec quel pilote as-tu disputé ces 6 heures?
Alors c'était assez sympathique parce que figurez-vous que j'étais avec deux autres Français qui étaient Kevin Estre et Mathieu Jaminet, un jeune espoir de chez Porsche. Donc en fait cette année c'est la deuxième fois où on est 6 pilotes Porsche de nation française. Et en fait, c'est la deuxième fois qu'on est tous les Français ensemble, et c'est la deuxième fois qu'on l'emporte. Donc quoi, finalement,
ouais,
ça
voilà.
Devrait être pas
bah
mal.
Voilà, bah oui, il y a pas de raison, il y a pas de raison. Voilà, il faut que Porsche continue donc de faire confiance aux pilotes français. Moi, j'ai tenu à t'avoir dans cette émission. Au-delà de tout ça, je rappelle que tu es donc champion du monde en titre en endurance avec justement avec Porsche dans la catégorie LMP1. Mmh. Et je voulais justement avoir ton regard à 2 semaines de la reprise du championnat à Mexico, de ce championnat du monde d'endurance que l'on adore, que ce soit sur l'antenne de Motorsport TV, puisqu'on retransmet toutes les courses de 6 heures en direct, ou ici à RMC. Et pour autant, ben franchement, le championnat est peut-être en train de traverser une passe un petit peu compliquée, et je voulais avoir ton sentiment là-dessus, Romain.
Bah c'est difficile. Pourquoi? Bah parce que le retrait à la fin de cette saison de Porsche va faire que le championnat va être mis encore plus à mal cette année. Déjà avec le retrait d'Audi, il y a que 4 voitures dans la catégorie Rennes LMP1. À l'inverse, la catégorie GT se porte très bien avec Porsche, Ferrari, Corvette, Aston Martin, Ford. Mais oui, c'est vrai que en tout cas l'annonce de Porsche qu'on s'attendait tous hein, depuis l'hiver dernier, c'est que bah, pour l'année prochaine, c'est un petit peu le doute complet. Il y a un an, ce championnat a été clairement la valeur montante. Tout le monde, on parlait même, vous savez, quand on comparait l'endurance à la Formule 1, tout le monde disait que c'était en train de devenir un gros championnat. Tout le monde s'y est intéressé et comme quoi, ben en fait, tout est très fragile puisqu'un an après. Tout remis en cause, donc pourquoi, comment, quelle est la situation pour l'améliorer, pourquoi ça, chacun a des idées, chacun a des réponses, chacun a des questions. Maintenant, en tout cas pour le moment, ben, il faut attendre de voir ce qui va être décidé, quoi.
Tu disais à l'instant, on le savait depuis l'hiver dernier, c'était si écrit que ça, le retrait de Porsche?
Non, je pense que c'était pas écrit, sinon forcément vous le sauriez aussi, mais... il y avait en interne, on en entendait parler. Si on réfléchit aussi à, je pense que depuis le mois de mars, avril, beaucoup de personnes, en tout cas dans le milieu, en étaient en grande partie déjà informées formellement, mais en tout cas sincèrement, je pense que depuis avril-mai, c'était clair pour beaucoup de monde. Donc après, vous savez. les constructeurs, il y a des sous-traitants, on peut le savoir si on veut, quoi. Donc, voilà. Il y a des pièces qui se commandent. Il y a des stocks qui s'approvisionnent, donc vous pouvez toujours savoir ce qui peut se passer.
Alors, bien sûr, encore une fois, je le dis, et je pense que tu seras d'accord, on adore l'endurance d'une façon générale, avec les 24 heures du Mans, bien sûr, qui est le summum de l'endurance. Cela étant, et sans encore une fois critiquer les choix qui ont été faits, est-ce que quelque part la philosophie, je dirais un peu européenne, de la compétition automobile, que ce soit en F1, on en parlera peut-être tout à l'heure également avec Adrien Tambay, qui consiste à faire du sport automobile une vitrine technologique qui coûte forcément beaucoup d'argent, et on comprend aussi que ce sont les budgets qui parfois peuvent décider d'un engagement ou d'un retrait d'un constructeur d'un championnat, n'est peut-être pas forcément cette donc vitrine technologique la meilleure idée pour faire le sport auto.
Bon, déjà, il faut pas oublier qu'à ce niveau de compétition, c'est-à-dire on parle de niveau budgétairement, en tout cas type Formule 1, dans les plus grosses équipes, on doit être tout est décidé à ce qu'on appelle un board, c'est-à-dire un board exécutif, c'est-à-dire les grandes têtes pensantes. Vous savez, c'est comme partout, il faut savoir avec ce marketing-là les convaincre, leur expliquer, leur faire comprendre pourquoi on dépense autant d'argent. C'est comme partout, on va en dépenser le moins possible et en avoir pour notre argent. C'est comme au restaurant, là, c'est exactement pareil. Maintenant, aujourd'hui, ben, l'endurance est devenue, depuis quelques années, grâce ou à cause de l'hybridation, etc., etc., une superbe vitrine, mais à quel prix? Et aujourd'hui, ben, néanmoins, ben, la mode va plutôt sur les voitures électriques et non plus sur l'hybridation. L'hybridation, c'était la Toyota Prius il y a 15 ans que vous avez tous pris à Paris pour prendre les taxis.
C'est ça.
Si on croit encore que c'est le futur, c'est qu'on se voile la face très fortement. Malheureusement, il y en a qui pensent que c'est encore le futur, peut-être. Mais la mode, en ce moment, c'est plutôt de parler de voitures complètement à batterie, qui, pour moi, chacun a son avis. Je ne le partage pas. Mais néanmoins, en tout cas, quand vous allez dans des réunions et dans des board meetings avec et que vous parlez de voitures pour le futur à batterie, ça passe mieux que des voitures qui sont déjà utilisées depuis une quinzaine d'années sur la route. Voilà, tout simplement.
Et puis ça permet d'avoir au niveau marketing de laver plus blanc, si je puis dire, et puis au niveau budget de compétition, d'enlever quelques zéros également sur la facture à la fin de l'année.
Oui, après, ça sera toujours pareil. Aujourd'hui, on enlève quelques zéros. Pourquoi? Parce que on a un règlement assez, en tout cas, si on parle de la Formule I, parce que en fait, c'est ce qu'on parle, sur un règlement assez serré. Tout le monde a la même voiture, tout le monde a la même batterie, etc., etc. Le jour où le règlement va s'ouvrir, s'il s'ouvre un jour,
les budgets vont s'ouvrir aussi.
Voilà, c'est très simple. Si aujourd'hui, on dit, on achète tous des voitures à batterie. Comme on peut acheter pour nos enfants dans le commerce, on fait la course avec ça, il y a une batterie, ça coûte pas cher. Maintenant, le jour où on va fabriquer nos voitures de A à Z, ça sera un peu plus compliqué, quoi. Vous savez, à la fin, si on prend, en tout cas, je pense, des explications très saines et très faciles et très terre-à-terre, on arrive rapidement, je pense, en tout cas, à avoir quelques réponses.
En tout cas, pour conclure, Romain, je rappelle que Porsche est en tête du championnat du monde des constructeurs LMP1 avant d'aller au Mexique avec quelques dizaines de points d'avance sur Toyota. Pour toi, ça ne fait aucun doute, Porsche va se retirer sur un titre mondial?
En tout cas, je pense très sincèrement que cette année, Toyota a de grosses cartes en main. Ils ont une voiture complètement nouvelle alors que Porsche utilise le même châssis depuis maintenant plus de 3 ans. Donc logiquement, en termes constructeurs, Toyota devrait cette année écraser la concurrence. Ça a très bien commencé, ça a mal continué. Donc je pense que ils devraient en tout cas se ressaisir. Maintenant, Le Mans étant passé, on apprend énormément aux 24 heures du Mans. On prend aussi beaucoup d'avance. Ça a été mon cas l'année dernière en termes de points. Et après, ces points-là, surtout maintenant, une bataille à 4, donc autant vous dire, et dès lors, en plus qu'il y a des stratégies de course où on efface des voitures, c'est des batailles presque à 2 ou à 3.
Ouais.
Dès lors, c'est difficile de combler son retard, parce qu'il y a très peu d'écart en termes de points. Donc, sincèrement, très difficile de pronostiquer, mais je pense que Porsche va à la fin encore l'emporter, oui.
Merci Romain d'être venu sur l'antenne d'RMC dans Motors. À très bientôt, j'espère. Et bravo encore pour la victoire d'hier en compagnie de Kevin Estre et de Mathieu Jaminet. Dans quelques instants, on retrouvera Eric Briquet en Allemagne avant de conclure avec notre page F1 avec Adrien Tambay. Merci Romain.
RMC jusqu'à 14h Motors.
Allez, on va reprendre rapidement la température vers Bostalsee, pas très loin de Saarbrücken en Allemagne, avec Eric Briquet.
Oui Patrick, je suis au milieu du parc d'assistance. J'essaie de guetter notre Français Sébastien Ogier, qui est normalement descendu du podium. La cérémonie est en train de se terminer. Je suis à côté du clan français, de tous ses supporters. Il y a même sa maman qui est là, qui l'attend également. Donc, on va essayer de la voir. Peut-être avec un peu de chance, il va passer devant nous et on pourrait avoir une déclaration voilà. En direct. Mais pour l'instant, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend parce qu'on a envie de le féliciter. D'abord parce que, il est de nouveau en tête du championnat. 17 points d'avance, comme on l'a dit tout à l'heure. Avec un peu de chance, on va l'avoir en direct. Mais pour l'instant, on ne fait que le guetter. Tout le monde l'attend. Il est peut-être passé par un autre chemin pour rejoindre la
c'est
future,
ça. C'est ça. Il est passé par ici et puis il repassera par là. Hein.
C'est... Voilà, c'est en tout cas un moment agréable puisque c'est l'arrivée d'un Malik. C'est beau ici sur les rives du lac Bostalsee. J'aperçois l'un des membres de son fan club. Donc vous voyez, je suis vraiment en principe
au cœur de l'action.
De passage, exactement. On va essayer de le guetter encore quelques instants parce que c'est vrai que c'est l'information essentielle de ce rallye d'Allemagne, la 10e manche du championnat du monde des rallyes qui en compte 13. C'est que le Français est de nouveau leader. Il avait perdu le commandement. Il était ex-aequo en point avec Thierry Neuville, mais au niveau des victoires, eh bien c'était le Belge qui était officiellement premier de ce championnat. Maintenant, c'est de nouveau le Français avec surtout 17 points d'avance. C'est ça l'information essentielle de ce rallye d'Allemagne. Ogier en route vers un 5e titre mondial consécutif. Ce n'est pas fait, mais en tout cas, il a repris, j'allais dire, un gros bol d'air sur ce rallye d'Allemagne après un rallye de Finlande qui s'était mal passé puisque malheureusement, il avait abandonné, donc marqué 0 points. Et on sait qu'à ce stade du championnat, eh bien, ne pas marquer de points comme vient de le faire Thierry Neuville, son rival direct pour le championnat, eh bien, ça peut être carrément, impossible à remonter. C'est loin d'être terminé, mais en tout cas, il a fait un bon pas en avant.
Surtout qu'il y a, tu pourras d'ailleurs l'évoquer ça avec lui. Il y a peut-être un troisième larron parce que Tanak vient de déclarer qu'après tout, il se voyait bien aussi se battre pour le championnat. On va être patient. Pas de problème, Eric. Tu nous appelles dès que tu as éventuellement Sébastien Ogier ou tu restes avec nous en stand-by. En tout cas, nous, on va, si tu veux bien, débuter la page F1 avec Adrien Tambay qui est également avec nous aujourd'hui. Bonjour Adrien.
Salut Patrick, bonjour à tous.
Alors j'avais une remarque à te faire, une sorte de réflexion, je ne voudrais pas paraphraser, mais j'avais envie de commencer cette page F1 en te disant, mais Adrien, non mais allô quoi, parce que c'est le allô, c'est bien également presque le mot à la mode en ce moment en F1 également, à une semaine de la reprise du championnat.
Ah oui, on en parle beaucoup de ce système, Patrick, effectivement, un système qui va venir protéger, en tout cas en partie, la tête des pilotes au-dessus du cockpit. Alors, tous les avis sont vraiment vraiment partagés. Certains pilotes trouvent ça vraiment laid. D'autres pensent que la sécurité prime avant tout. Et d'un point de vue politique, on est obligé de rechercher le plus de sécurité possible. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose de positif pour la Formule 1. Après, on peut se poser la question de savoir si le système a été bien pensé et si on a eu assez de temps pour justement le développer. C'est peut-être là que le bas blesse. On sait qu'il va faire à peu près 10 kilos ce petit halo et ça va alors que les monoplaces, elles, le poids minimum va seulement monter de 5 kilos. Donc il y a certains pilotes qui se demandent s'ils vont devoir perdre 5 kilos de plus.
C'est ça.
Bref, il y a quelques critères auxquels on n'a pas encore pensé. Peut-être que c'est pas, peut-être qu'on n'est pas encore totalement prêt pour ce système.
Alors, on rappelle ce système que souhaite la FIA. C'est une sorte de protection en carbone. Pour l'instant, on l'a vu noir ou parfois on l'a vu de la couleur de la monoplace comme chez Ferrari. Mais c'est une sorte de comment dire? Un petit peu l'os de poulet qu'on recherche tous un petit peu, avec une forme ça prend au niveau de la tête du pilote, et puis surtout il y a cette partie avant là qui vient se positionner juste dans l'axe du regard du pilote. Bah certains trouvent que à la limite la visibilité est un petit peu moins bonne.
Je pense que ce montant entre guillemets qui se retrouve en face des yeux du pilote, c'est pas forcément l'endroit le plus gênant, puisqu'on regarde à droite et à gauche quand on conduit, mais c'est surtout peut-être le montant qu'il y a au-dessus, par exemple pour les départs. Romain Grosjean se disait un peu inquiet de ne pas pouvoir voir les feux à un moment donné. Bref, en tout cas, ce système, il va devoir être développé, il va devoir passer aussi des crash tests, des tests de flexibilité, etc. Et ça pourrait même engendrer des retards sur la production des voitures, parce que c'est un système complètement solidaire de la voiture, et ça va être compliqué, je pense, à mettre en œuvre. Alors espérons que la FIA n'ait pas pris un choix trop rapide avec ce halo, mais ils vont tout faire en tout cas pour le mettre en place dès 2018.
Alors j'ai sous les yeux quelques remarques de pilotes, et justement toi qui es pilote, tu vas pouvoir aussi me donner ton avis là-dessus. Esteban Ocon qui lui dit: on ne peut pas se plaindre que la FIA travaille pour nous, pour qu'il y ait plus de sécurité. On voulait une solution qui soit vraiment qui donne de la sécurité. Maintenant on l'a, donc on n'a pas forcément envie de prendre des roues dans la figure. Il y a d'une certaine façon aussi un petit peu une référence à ce qui s'est passé aux États-Unis avec Justin Wilson, le pilote britannique qui a pris une roue et qui est décédé l'année dernière ou il y a 2 ans. On se rappelle aussi du fils de John Surtees qui avait été blessé. On se rappelle aussi de l'amortisseur qui était venu taper le visage, le casque de Felipe Massa. Les pilotes commence par dire: oh, on n'aime pas trop, mais quelque part ils deviennent un petit peu légalistes, puisqu'après tout, si c'est pour leur sécurité, ils sont prêts à l'admettre.
C'est compliqué d'aller après tout ce que tu viens d'énoncer, Patrick, de dire que c'est complètement débile ce système, parce que ça aurait peut-être sauvé quelques vies et des vies de certains de nos potes. Donc d'aller complètement contre cette idée du halo. Pour un pilote, c'est compliqué, et politiquement aussi. Maintenant, on est aussi à la recherche de héros dans ce sport, et ça doit rester pour moi un sport extrême, quelque part, dangereux. J'ai perdu mon meilleur pote, Jules Bianchi, en course automobile, et on veut pas ça. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est un peu de danger quand même. Maintenant, encore une fois, le système, s'il est au point et si il est esthétiquement harmonieux, avec grand plaisir, les avis seront partagés, mais moi je suis de l'avis que la F1 doit rester un peu dangereuse quand même, et que si on met des systèmes en place, il faut que cela soit complètement abouti. Voilà.
Je vais te donner l'avis d'Esteban Ocon. Si tu veux bien, on va écouter également celui de Romain Grosjean.
Le jour où j'ai vu l'annonce du halo, c'était une sale journée pour la Formule 1. Personnellement, je pense que le halo peut ramener des problèmes qu'on n'avait pas sans, et finalement est utile dans très peu de cas. Est-ce qu'on va voir les lumières de départ? Personne n'a essayé sur la grille de départ de voir si on voyait les feux ou pas. La visibilité est moins bonne. Le temps d'extraction de la voiture a été augmenté, mais le feu va toujours à la même vitesse. C'est pas comme les dernières évolutions qui ont été amenées en Formule 1 où il n'y avait que du positif. Là, il y a du positif dans certains cas, et il peut y avoir du négatif dans d'autres.
Tu es d'accord avec ce que vient de dire
Je suis
Romain?
Tout à fait d'accord, ouais, Patrick. C'est ce qu'on disait il y a un instant. Le système n'est pas à 100% abouti, et même si pour une petite partie des incidents, ça écarterait le risque, Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Comme le disait Romain, ça va peut-être apporter d'autres problèmes. On va mettre plus de temps à sortir de la voiture en cas de feu, en cas de position dangereuse sur la piste, la visibilité des feux rouges au départ, la visibilité des drapeaux. Il y a plein de paramètres dont on n'est pas sûr à 100%, et c'est quelque part un peu risqué d'avoir pris cette décision aussi rapidement. Donc on peut se poser des questions. Maintenant, il faut laisser faire la FIA et les équipes techniques pour le développement de ce fameux halo et voir ce qu'ils peuvent arriver à faire pour que tout le monde soit le moins mécontent possible.
C'est vrai aussi, moi c'est ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il y a eu d'autres propositions qui ont été faites à la FIA avec une sorte de pare-brise, si je puis dire, un petit peu plus haut. Mais on a quand même l'impression que toutes les autres solutions peuvent être apportées, mais que la FIA ne les regarde pas vraiment et qu'elle se concentre sur le halo. Si tu veux bien aussi, on va retourner en Allemagne, puisqu'Éric Briquet est en compagnie de Sébastien Ogier.
Patrick, oui, je suis en compagnie de Sébastien Ogier. Donc on disait, ce qui est important, c'est ce podium et d'être de nouveau en tête du championnat avec 17 points d'avance. C'est la belle opération.
Oui, c'est une belle opération d'un point de vue comptable. C'est un résultat très positif. On est satisfait malgré tout, même si c'est sûr d'arriver en Allemagne, l'objectif c'était quand même de se battre pour la victoire. On n'a pas plus ce week-end à cause du temps perdu le premier jour. Mais voilà, il faut, dans les situations difficiles, exploiter les opportunités. Et je pense que ce week-end, recréer une avance de 17 points sur le terrain, c'est un bon résultat.
Tu avais été un petit peu déçu forcément en Finlande, tu as marqué 0 points. C'est un bol d'air, c'est à 3 manches du championnat. C'est important cette avance maintenant?
Oui, c'est mieux d'avoir 17 points d'avance que d'être derrière. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire que c'est joué. Avec 3 rallyes à disputer, tu as énormément de points encore à distribuer. Et il va falloir rien lâcher, il va falloir continuer à attaquer. Beaucoup de pilotes qui ont été à l'heure actuelle, même Roy est revenu plus ou moins dans la course au titre maintenant, hein. il est un peu derrière, donc en gros c'est une grosse victoire et il ne faut pas l'oublier. C'est à un moment que je le disais qu'il ne fallait pas oublier Roy et Yari. Bon, Yari est un peu plus distancé je pense maintenant, mais en tout cas Roy, il fait partie toujours des clients sérieux pour le titre, et donc ça va peut-être finalement être une bataille à 3.
Il n'y a pas la victoire ici en Allemagne, mais il y a quand même cette satisfaction, c'est pas le sentiment qu'il emporte juste après l'arrivée de ce rallye.
Comme je dis, c'est la satisfaction, même si c'est toujours le même. Ce qui me satisfait le plus, c'est de gagner. Et quand les week-ends ne gagnent pas, c'est pas la joie absolue. Mais honnêtement, je pense qu'on a bien. On est allé chercher les points qu'il fallait ce week-end et on essaiera de faire mieux sur la prochaine.
Voilà, Patrick, c'était une réaction à chaud. Je suis obligé
super.
De l'acheter. Tu vas aller sur la conférence de presse d'après l'arrivée, mais en tout cas, on a réussi à l'avoir.
Bah, c'est génial.
Peut-être ça le plus important.
Mais bravo à toi, Eric, et bravo à Ottanak, et bravo à Seb aussi également, qui la semaine dernière nous avait donné rendez-vous pour un 5e titre. On ne l'oublie pas, bien sûr, ce qu'il nous a dit la semaine dernière, Seb Ogier. Merci, Eric, et on retrouve tout de suite Adrien. Merci de ta patience, Adrien. On va conclure cette émission en ta compagnie. On a quelques minutes pour aborder d'autres sujets. Déjà, tiens, une petite annonce. Ça se passait au Japon sur le circuit de Motegi. Pierre Gasly a remporté sa première course en Super Formula, la discipline japonaise, devant Kobayashi. Pierre Gasly qui fait partie des jeunes pilotes qui rêvent d'arriver en Formule 1 et pourquoi pas dès la saison prochaine chez Toro Rosso si ça se bouscule dans cette équipe, Adrien.
Ah bah, il mérite vraiment sa place, Pierre. J'étais un peu inquiet après un début de saison un peu compliqué dans ce championnat qui est très relevé. Et là, la bonne nouvelle ce matin, la première victoire de Pierre, qui est un pilote Red Bull, comme tu le disais, et qui mérite, hein, comme Daniil Kvyat, de rouler en Formule 1. Mais il y en a plein. Il y a aussi Charles Leclerc qui est en train de faire une saison fantastique en Formule 2. Donc il y a plein de jeunes pilotes qui ont leur place. Et voilà, c'est... Il faudrait leur trouver de la place pour que voilà toutes ces catégories de promotion, la F2 anciennement GP2 veuillent vraiment dire quelque chose, parce qu'à un moment donné voilà ils méritent vraiment au niveau du talent et du travail. C'est des jeunes qui ont gagné tous les championnats auxquels ils ont participer depuis leur plus jeune âge. Voilà.
Bah, pour qu'ils puissent arriver en Formule 1, il faudrait qu'il y ait plus d'équipes, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a de la place sur la grille, hein, dans une grille de Formule 1. Il nous reste en gros une minute et demie, Adrien, et je voudrais évoquer avec toi rapidement ton analyse de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans cette saison avec la reprise là qui va donc débuter avec le Grand Prix de Belgique. Dès la semaine prochaine, tu seras d'ailleurs bien sûr sur notre antenne avec Jean-Luc Roy et Louis Amar. Quid donc de ce match Vettel Hamilton annoncé?
Je crois qu'on vit une saison exceptionnelle tant au niveau de la bataille entre les pilotes, entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel, avec un arbitre de choix, Valtteri Bottas, qu'au niveau du développement des voitures et de la bataille que Ferrari et Mercedes se livrent course après course, vraiment, parce qu'on n'est pas capable de dire avant chaque Grand Prix qui va être devant en termes de performance, même si on arrive à quand même savoir quelle voiture est un peu mieux sur tel ou tel circuit. Là, en l'occurrence, pour Spa, ça va être, je pense, un peu plus compliqué pour Ferrari que ça ne l'a été en Hongrie, où ils ont dominé le week-end. Mercedes est très forte dans les virages rapides. Spa est un circuit très rapide, assez long, où je pense que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas vont être en position de force. Maintenant, Kimi Raikkonen est aussi très très fort à Spa Francorchamps, et Sébastien Vettel va avoir à cœur d'accroître son avance au championnat.
Tu es donc en train de nous dire, Adrien, ça sera notre conclusion, que cette dernière partie de Formule 1 à suivre, bien sûr, sur RMC sera forcément d'une intensité redoutable. Merci à toi.